Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde la introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce nouveau Prêt-à-penser, la chronique psy de l'oreille curieuse sur Radio G, un mercredi sur deux. Je suis Nicolas et une nouvelle fois, je vais vous parler de sujets au regard de la psychologie. Il y a des rêves dont on se souvient longtemps, que ce soit des rêves merveilleux, dans lesquels tout est possible et où toutes les fantaisies peuvent s'accomplir, jusqu'aux cauchemars les plus effrayants qui vous réveillent en sueur au milieu de la nuit et vous empêchent de vous rendormir. Mais que veulent dire ces rêves? Que nous apprennent-ils? À quoi servent-ils? Cette question a depuis tout temps traversé l'être humain dans sa compréhension de lui-même. La neurologie aborde le rêve sous l'angle de l'expulsion. Selon elle, le rêve serait un phénomène neurologique qui servirait à expulser, à traiter les souvenirs de la veille qui encombreraient d'une certaine manière la mémoire. Un petit peu comme un ordinateur qui aurait accumulé des bouts de fichiers par-ci par-là et qui aurait besoin d'un nettoyage pour permettre, le jour suivant, d'optimiser ses performances. La neurologie n'accorde donc pas au rêve une autre fonction que celle d'un simple nettoyage de la mémoire. En d'autres termes, elle ne confère pas au rêve une autre fonction qu'une simple fonction pratique à l'échelle du psychisme et de la neurologie. Elle n'y confère pas ni de message, ni de signification à proprement parler. Pourtant, de tout temps, dans la culture populaire, le rêve était perçu comme un message, parfois un message mystique, à savoir que le rêve était un moment où l'âme, se détachant du corps, pouvait être sensible, réceptive au message divin. Pour d'autres, le rêve avait une fonction prémonitoire, rêver de ceci, présager de tel événement. Par exemple, rêver d'un cheval noir pouvait annoncer la mort ou le risque de mourir de quelqu'un de proche. Rêver de dents qui tombent pouvait signifier que l'on allait gagner beaucoup d'argent dans les jours à venir. Ainsi, culturellement, s'est installée une sorte de dictionnaire du rêve, avec des symboles se rapportant à telle ou telle prémonition. En 1900, Sigmund Freud, que j'ai souvent cité dans le Prêt-à-penser, mais comment ne pas citer le fondateur de la psychanalyse? Vous l'aurez compris, c'est un courant de pensée que j'apprécie particulièrement et qui conditionne principalement ma pratique et mon approche des problématiques psychiques. Donc Freud, en 1900, écrit l'interprétation des rêves. Il écrit cet ouvrage majeur que beaucoup considèrent d'ailleurs comme le premier ouvrage véritablement psychanalytique, l'acte de naissance en quelque sorte, de la psychanalyse. Freud écrit l'interprétation des rêves car il a remarqué qu'il y avait un lien entre les rêves et les problématiques inconscientes qu'il avait repérées chez certains patients. Qu'est-ce à dire? Freud confère aux rêves une double fonction. La première, c'est la plus évidente, c'est de maintenir le dormeur endormi, c'est de veiller au sommeil. Le psychisme se démène pour détourner l'attention du dormeur de l'extérieur vers l'intérieur. Il essaye d'interpréter les stimuli externes comme faisant partie de ce qui se joue dans le rêve à un niveau interne et donc maintenir le dormeur dans le sommeil, lui permettant de se régénérer. Mais Freud remarque aussi qu'il y a une nécessité de se pencher sur les formations du rêve, puisqu'effectivement, chaque rêve ne ressemble pas à l'autre, et ce qu'il contient, contrairement du coup à l'approche neurologique qui considère que ce qui se joue dans un rêve, les éléments qui font partie d'un rêve, les personnages, les objets, sont issus de traces mnésiques aléatoires, presque aléatoires, de ce qu'on a rencontré dans la journée, Freud considère que cette formation d'objets, cette formation, ces scénarios qu'il y a dans les rêves, se rapporte à des problématiques inconscientes de la part du dormeur. il prend le parti de considérer que puisque c'est le dormeur et son psychisme qui crée le rêve dans toutes ses dimensions, alors cette formation, ce résultat, dit quelque chose sur ce qui anime le dormeur en temps normal. Et parmi les choses qui animent le dormeur en temps normal, il y a ces problématiques inconscientes, puisque Freud, en 1900, se focalise sur l'étude de ce qui lui est apparu comme étant le champ du psychisme de l'être humain dont il n'a pas conscience, mais qui régit une grande partie et qui conditionne une grande partie de son état de veille. Alors pour autant, est-ce que ça signifie qu'un rêve doit être interprété sous le modèle du dictionnaire des rêves? C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sans parler de prémonition, est-ce que ça veut dire que si on rêve de telle chose, alors ça veut dire que dans son inconscient, on est inquiet, préoccupé par telle chose? Est-ce que chaque symbole dans un rêve se rapporte à quelque chose de précis? Est-ce qu'on peut décrypter un rêve, un petit peu comme une écriture, comme une langue? Eh bien, pas exactement. Selon Freud, même s'il existe, bien entendu, des symboles communs qui sont issus de la culture, qui sont conditionnés, en fait, par la culture dans laquelle on baigne, eh bien, chaque objet se rapporte à l'histoire particulière du dormeur. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est pas tellement que le dormeur ait rêvé d'un serpent, en termes de signification, par exemple, mais c'est plutôt que le dormeur a rêvé d'un serpent qui, pour lui, dans ses souvenirs, dans son histoire particulière, se rapporte à quelque chose. Et ce quelque chose, il ne peut pas être deviné par l'analyste qui se penche sur l'interprétation du rêve. Ce quelque chose, il ne peut être retrouvé que par le patient lui-même. Voilà une nouvelle fois illustré par cette méthode le point de vue de la psychanalyse, qui n'est pas un savoir qui vient s'appliquer sur le patient, mais qui est une aide au patient à dégager son propre savoir inconscient. C'est ce qui se passe pour le rêve. Et Freud ne prend pas le parti de décrypter les rêves avec ce qui lui semble être des symboles déjà tout faits et un dictionnaire déjà trouvé. Il propose à ses patients de raconter leurs rêves, mais pas seulement. Il propose à ses patients de raconter ce à quoi leur rêve leur fait penser. Il demande à ses patients d'associer librement les pensées avec les éléments du rêve qu'ils racontent. Et c'est ainsi que se détricote, d'association en association, le rapport du rêve avec la problématique inconsciente. Mais ce qui est certain pour Freud, c'est que même de manière déguisée, même quand le rêve est absurde, même quand le rêve revêt un masque désagréable qui donne un cauchemar, eh bien, in fine de l'interprétation, on peut, selon Freud, le rapporter à l'accomplissement d'un souhait. Et donc le rêve, au-delà de maintenir le dormeur dans le sommeil, au-delà de nettoyer la mémoire, comme le suggèrent les approches neurologiques, eh bien, il sert aussi à traiter quelque chose de l'ordre du désir, de l'ordre du souhait. Il sert à donner une satisfaction au dormeur, une satisfaction interdite à l'état de veille, impossible. Il sert aussi à traiter quelque chose qui aurait donc à voir avec la frustration. Alors vous me direz, oui, mais enfin, il y a des rêves qui sont tellement absurdes que vraiment, on a du mal à les rapporter à quelque désir que ce soit, à quelque accomplissement de souhait que ce soit. Il y a des rêves qui n'ont ni queue ni tête. Eh bien, le point de vue de Freud sur ces rêves est celui qui peut se rapporter à ce que je vous ai déjà présenté dans un précédent prêt-à-penser qui concerne l'inconscient. L'inconscient, ce n'est pas seulement le lieu de ce dont on n'a pas conscience. L'inconscient, c'est aussi le lieu de ce que on n'autorise pas à rentrer dans la conscience. C'est le lieu de ce qui est incompatible avec la conscience. C'est le lieu de l'interdit, de l'immoral, de l'inacceptable. Le rêve, donc, puisqu'il se rapporte à des problématiques inconscientes et qu'il profite, selon Freud, pendant le sommeil de l'abaissement de l'autocensure pour manifester des forces qui agissent en arrière-plan de la conscience, il va user de truchement parce qu'il ne peut pas présenter de manière brute au dormeur un matériau que le dormeur ne fait que s'efforcer de refouler, de maintenir dans l'inconscient. Donc il va user de truchement, il va modifier le matériel, il va déguiser le souhait accompli en quelque chose d'absurde, de manière à ce que cette absurdité trompe le dormeur quelque part et permette au dormeur de prendre conscience du rêve. Sans ce déguisement, le dormeur serait susceptible de refouler le rêve automatiquement. C'est ce qui arriverait quand vous vous réveillez et que vous avez le sentiment de ne pas avoir rêvé, ou en tout cas vous ne vous souvenez pas de votre rêve. Le plus probable, c'est que vous ayez rêvé, mais que vous avez refoulé instantanément votre rêve parce que peut-être n'était-il pas assez déguisé, peut-être se rapportait-il trop directement à une problématique inconsciente que vous n'êtes pas encore prêt à accepter telle qu'elle dans votre conscience. Donc, au réveil, vous supprimez totalement le rêve de votre conscience.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux.
Super.